de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassade d'Ukraine organise une vente aux enchères pour les enfants touchés par le conflit en Ukraine. L'Indonésie souligne l'importance de renforcer le multilatéralisme au sein du G77. Zelensky se rendra à la Maison Blanche pour rencontrer Biden. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Vingt-quatre objets de collectif, y compris plusieurs objets liés à l'Indonésie, ont été vendus avec succès à des dizaines d'invités lors d'une vente aux enchères organisée par l'ambassade d'Ukraine à Jakarta vendredi 15 septembre 2023. Cette vente aux enchères a réussi de collecter des fonds s'élevant à 161,4 millions de roupies. L'ambassadeur d'Ukraine en Indonésie, Fasil Hamyanin, a déclaré que l'activité intitulée « Laisser les sourires » n'était pas seulement une activité amusante, mais une activité visant à collecter des fonds pour les enfants ukrainiens touchés par le conflit dans ce pays. L'ambassadeur Fasil a bien accueilli et exprimé sa gratitude pour l'enthousiasme des participants aux enchères. C'est vrai, je suis vraiment très reconnaissant de cette communauté. L'événement d'aujourd'hui porte sur ce que les Indonésiens pensent de l'Ukraine et des enfants qui souffrent. Et il s'agit ici de l'humanité, rien de plus. Vous n'avez pas besoin d'être ukrainien pour aider les enfants ukrainiens. Vous devez être humain. Comme il n'est pas nécessaire d'être indonésien pour aider les enfants indonésiens dans le besoin. Et beaucoup de gens qui font ça. Cette activité collabore avec la Fondation Olena Zelenska, une fondation fondée par la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska. Parmi les objets vendus aux enchères dans le cadre de cette activité sont une peinture sur plaque de céramique de l'ancien gouverneur de Java occidentale, Ridwan Kamil, qui a été vendu pour 10 millions de roupies, et un timbre poste d'Ukraine avec une photo de Général Sudirman vendu de 6,5 millions de roupies. En outre, le bâton de Boulawa typique de l'ancien dirigeant ukrainien et des œuvres en céramique de l'artiste Tartar Crimea Rustem Skibin ont également été vendus avec succès aux enchères. L'Indonésie souligne l'importance du renforcement du multilatéralisme dans sa déclaration nationale lors du forum de G77. Ce forum est un groupe coopératif des pays membres de l'ONU, composé de 134 pays en développement, donc le principal objectif est de faire progresser la coopération au développement. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, dans une déclaration reçue à Jakarta samedi, a déclaré que le G77 doit être une boussole morale pour la solidarité et les partenariats mutuellement bénéfiques. Une autre chose déclarée dans la Déclaration nationale de l'Indonésie est l'importance pour le G77 d'encourager les efforts visant à renforcer les droits au développement des pays en développement.
Pertama, pentingnya memperkuat multilateralisme.
Premièrement, l'importance de renforcer le multilateralisme. Le G77 doit être la boussole morale du multilatéralisme, de la solidarité et des partenariats mutuellement bénéfiques. Deuxièmement, il est important que le G77 encourage les efforts visant à renforcer les droits au développement des pays en développement, y compris le droit de développer les industries navales et de faire partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La science, la technologie et l'innovation jouent un rôle très important. Par conséquent, le G77 doit être en mesure de faire pression pour un meilleur accès à la science, la technologie et l'innovation pour les pays en développement. En outre, la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno, a également déclaré que l'Indonésie encourageait le renforcement de la coopération en matière de sciences, de technologie et d'innovation et était prête à contribuer à la fois par le mouvement des pays non alignés pour la coopération sud-sud et la coopération au développement. La réunion du sommet du G77 à La Havane, Cuba, a abouti à la déclaration de La Havane. Cette déclaration souligne un certain nombre de choses, notamment le rôle important de la science, la technologie et l'innovation dans la réalisation des objectifs de développement durable, dans la résolution de divers défis mondiaux, souligne l'écart d'accès entre les pays en développement et développés vers la science, la technologie et l'innovation, ainsi qu'un engagement de renforcer la coopération sud-sud, sud-nord et triangulaire dans les domaines de la science, la technologie et l'innovation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera le président américain Joe Biden lors de sa dernière visite à la Maison-Blanche la semaine prochaine. La visite de Zelensky aux États-Unis dans le cadre de sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Outre sa visite à la Maison-Blanche, Zelensky reviendra également au Capitole ou au Parlement américain. Comme l'a rapporté Associated Press vendredi, des informations sur la visite prévue de Zelensky ont été révélées par un responsable du gouvernement américain. Selon la source officielle américaine, Zelensky rencontrera directement Biden à la Maison-Blanche jeudi 21 septembre, la semaine prochaine. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La République populaire de Chine traitera la variole du singe de la même manière qu'elle traite les maladies infectieuses telles que le COVID-19 à partir du 20 septembre, a annoncé vendredi les autorités sanitaires après avoir détecté environ 500 cas d'infection par le virus le mois dernier. La Commission nationale de la santé a déclaré que la variole du singe serait traitée selon les protocoles de catégorie B. Dans cette catégorie, la Chine peut prendre des mesures d'urgence telles que limiter les rassemblements, fermer temporairement des entreprises et des écoles, ou fermer des zones en cas d'épidémie. Les maladies infectieuses de catégorie B comprennent actuellement le COVID-19, SIDA et le SRAS. La Commission nationale de la santé a ajouté que plus de 20 provinces ont signalé des cas de variole du singe en Chine depuis le premier cas importé en septembre 2022 et ce cas a commencé à se propager localement en juin 2023. Le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, a déclaré vendredi que la Turquie et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, travaillent dur pour relancer l'accord céréalier de la mer Noire. Lors de la conférence de presse, Sullivan a déclaré que les États-Unis ne voyaient aucune issue de revenir immédiatement à cet accord. Guterres a précédemment déclaré qu'il rencontrerait les dirigeants de la Turquie, de l'Ukraine et de la Russie la semaine prochaine à l'Assemblée générale des Nations unies à New York dans le but de relancer l'accord. On sait que la Russie a mis fin à l'accord céréalier en juillet dernier. La Malaisie envoie 30 000 exemplaires des traductions anglaises et mandarin du Coran à l'Australie, au Canada et au Royaume-Uni pour vaincre l'islamophobie. La livraison de 30 000 exemplaires de la traduction du Coran aux trois pays faisait partie du lancement de la remise de trois conteneurs de wakaf d'un million de Corans réalisé par la Fondation Restu et Nasrul Coran à Putrajaya. Le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, via les réseaux sociaux à Kuala Lumpur, a déclaré samedi que le wakaf d'un million de Corans donne un signal clair que la violence ne peut pas être éradiquée par la violence. On dit que la Malaisie a l'intention d'utiliser une approche sage pour faire face aux symptômes islamophobie plutôt qu'une approche réactionnaire basée sur les émotions. Les efforts de la Malaisie pour rejeter le fascisme et l'islamophobie a également été déclaré récemment par Anwar Ibrahim lors du 43e sommet de l'ASEAN à Jakarta début septembre. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Banyumas dans le centre de Java. La résidence de Banyumas dans le centre de Java a accueilli les activités du forum de dialogue City Window Series qui ont eu lieu pendant trois jours par le programme des villes vertes intelligentes de l'ASEAN pour soutenir le développement vert. Monsieur Fakhri Karim, le conseiller principal du programme des villes vertes intelligentes de l'ASEAN, à Purwokerto Banyumas, a déclaré mardi que ce programme soutenait le développement vert dans les villes de l'ASEAN, qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'intermédiaire du Fonds d'équipement des Nations unies. Actuellement, le programme est exécuté dans 13 villes de l'ASEAN. Selon lui, Banyumas est l'une des régions d'Indonésie qui participe au programme des villes vertes intelligentes de l'ASEAN avec des autres villes de l'ASEAN. Et il y a maintenant une ville supplémentaire, à savoir Banyuwangi, Java Est. Surtout pour Banyumas qui accueille cette année le forum de dialogue de City Window Series. Selon Fakri Karim, cela donne de l'expérience liée à ce qui a été réalisé par le réseau de Banyumas et d'autres parties en Indonésie, notamment le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts. Par conséquent, dans le cadre de cette activité, des délégations de 13 villes de l'ASEAN sont venues à Banyumas dans le cadre d'un forum de dialogue et aussi pour voir l'expérience de Banyumas en matière de smart green, notamment la gestion des déchets. Les nouvelles suivantes sont venues de Surabaya, dans l'est de Java. 5 étudiants du programme d'études en génie mécanique et manufacturier de la faculté d'ingénierie de l'Université de Surabaya ont créé un outil d'habillage innovant pour les personnes physiquement handicapées nommé Dr. Med Dressing Med. Cette innovation a été conçue par Angeline Arista, Judy Krismanto, Lei Ricci Wijaya, Cristoforo Srafel et Deviano Sutanto. Le chef d'équipe, Angeline à Surabaya, a déclaré lundi que l'idée de cette innovation était motivée par la difficulté pour les personnes physiquement handicapées à s'habiller, notamment celles qui avaient perdu les deux bras à cause d'une amputation. Cette innovation est équipée de 3 contrôleurs, à savoir la télécommande, l'application Android et les commandes vocales. L'application Android vise à garantir que cet outil puisse également être utilisé par les accompagnateurs des personnes handicapées physiques pour aider depuis différents endroits. Angeline a déclaré que le processus de conception de Dr. Med a pris environ 3 mois. Cette création a été assistée par le superviseur Sunardi Chandra MT. Grâce à cette innovation, Dr. Med a remporté la 3e place au concours Ingénierie Innovation Challenge 2023 organisé par l'Institution des ingénieurs de Singapour. Ce concours a été participé par des participants de divers pays, entre autres Singapour, les Philippines et l'Australie. À l'avenir, Dr. Med devrait pouvoir être appliqué directement aux tétraplégiques à domicile, dans les hôpitaux et les lieux de réhabilitation. Dernière nouvelle de Siak Riau. Le gouvernement de la région de Siak, dans la province de Riau, a de nouveau organisé le rituel annuel de Rejet Dumal, Gatip Beganyut, en priant avec la communauté sur un bateau pour se rapprocher de Dieu lundi soir. Le régent adjoint de Siak, Husni Merza, a déclaré que cette activité visait à maintenir et à préserver la tradition Gatip Beganyut. Cette tradition est la tradition du zikr collectif pour la 9e fois par le gouvernement du district de Siak. L'événement Gatib est commencé par des prières communes, un dîner et des prières d'ouverture. Ensuite, il y a eu un défilé au flambeau de la mosquée Sahabuddin aux portes pour montrer à bord du ferry et de plusieurs bateaux. Selon Husni Mirza, cette tradition existe depuis l'époque du royaume Siak et continue d'être préservée jusqu'à présent. Gatib Beganyut est une tradition rituelle visant à éloigner une personne ou une communauté de diverses maladies et mauvais événements. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voix International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec les événements du 16 septembre 1975, lorsque la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue indépendante. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a obtenu son indépendance sans guerre de l'Australie le 16 septembre 1975. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est officiellement appelée l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est un pays situé dans la partie orientale de l'île de Papouasie et a des frontières terrestres directes avec les provinces indonésiennes, telles que les provinces de Papouasie et de Papouasie montagneuse et la Papouasie du sud à l'ouest, l'Australie au sud, les pays frontaliers de l'Océanie au sud et à l'est et au nord, citant la passe Komlo Puang Dong Puang Ide, le 1er septembre 1973, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a obtenu son propre gouvernement dirigé par le ministre en chef Michael Somar. Puis le 16 septembre 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a obtenu sa pleine indépendance de l'Australie et ensuite devenu membre du Commonwealth. Le 10 octobre 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été acceptée comme 142e membre des Nations Unies. Après l'indépendance, le ministre en chef a été remplacé par le premier ministre et un gouverneur général a été nommé représentant de la reine d'Angleterre. Le 16 septembre 1982, le massacre de Sabra et Shatila. Le massacre de Sabra et Shatila a eu lieu en septembre 1982 à Beyrouth, au Liban, qui était occupé par Israël. Ce massacre a été perpétré par des milices chrétiennes maronites libanaises contre des réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila. Les forces maronites étaient directement sous le commandant d'Eli Obeika, qui est ensuite devenu membre du Parlement libanais et dans les années 1990 est également devenu ministre du cabinet libanais. Tout au long de ces événements, ces camps ont été encerclés par des soldats israéliens et des miliciens ont été envoyés par Israël à la recherche de membres de ELP, la mesure dans laquelle Israël est coupable de massacres est largement débattue et Israël nie en être directement responsable. Mais le résultat trouve que les Israéliens, y compris Ariel Sharon, en sont indirectement responsables. Le 16 septembre 1987, signature du protocole de Montréal. Le protocole de Montréal est un traité international conçu pour protéger la couche d'ozone en éliminant la production d'un certain nombre de substances considérées comme responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Ce traité a été signé le 16 septembre 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1989. Depuis le 1er janvier 1989, ce traité a connu 5 révisions, à savoir en 1990 à Londres, 1992 à Copenhague, 1995 à Vienne, 1997 à Montréal et en 1999 à Pékin. Grâce à cet accord international, le trou d'ozone en Antarctique se résorbe lentement. Les projections climatiques montrent que la couche d'ozone reviendra au niveau de 1980 entre 2050 et 2070. En raison de son large niveau d'application et de mise en œuvre, le traité est considéré comme un exemple réussi de coopération internationale. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, l'a mentionné un jour comme peut-être l'accord international le plus réussi à ce jour. Le 16 septembre est alors célébré comme la Journée mondiale de l'ozone. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter les minéraux critiques donnent à l'Indonésie une longueur d'avance dans le monde. Le ministre coordinateur des affaires économiques, M. Erlangga Hartarto, a déclaré que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale considéraient l'Indonésie comme un pays extraordinaire. Erlangga Hartarto, lors de la conférence 2023 des membres de l'Association des émetteurs indonésien à Jakarta jeudi a également déclaré que la même chose s'applique à l'ASEAN, la seule région où la croissance économique est supérieure à 4% et l'inflation peut rester faible. Selon Erlangga, lorsque tous les pays se concentrent sur la croissance économique et l'inflation, l'Indonésie peut être forte dans ces deux aspects, de sorte que l'Indonésie et l'ASEAN deviennent des points brillants dans la croissance économique mondiale. Citant par econ.go.id, dans un contexte mondial toujours confronté aux défis à plusieurs niveaux, tels que le changement climatique et El Niño, la croissance économique de l'Indonésie au deuxième trimestre 2023 a pu croître de 5,17% et le taux d'inflation en août 2023 était au niveau 3,27% ou dans l'objectif cible de 3% plus minus 1%. Le ministre coordinateur Erlangga a souligné que les minéraux critiques ou les ressources minérales sous forme de métaux et de non-métaux est une valeur économique, mais risque de subir des ruptures d'approvisionnement, ce qui est discuté par les dirigeants mondiaux de divers blocs, tels que le G20 et l'Union européenne. Mais l'Indonésie garantit qu'avec les minéraux critiques, elle deviendra un pays en avance ou très en avance sur les autres pays dans le monde. C'est parce que les minéraux critiques sont la clé des énergies renouvelables. Pour que les perspectives économiques de l'Indonésie soient meilleures et plus fortes, le gouvernement a mis en œuvre diverses stratégies politiques. Entre autres, la mise en œuvre de la loi sur la création d'emplois, y compris la réforme des licences commerciales fondées sur le risque, renforcer le pouvoir d'achat et contrôler l'inflation, renforcer la compétitivité et la valeur ajoutée industrielle, autonomiser de micro, petites et moyennes entreprises, encourager les exportations et maintenir la résilience du secteur extérieur, accroître la productivité des ressources humaines, le développement et la connectivité équitable et accroître la coopération internationale. Chers amis, c'est à la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Pagi, sore, dan malam, nafiku lah bertandang. lakukan kembali.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Irmésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Magazine Cultural. Cette fois, nous allons vous présenter Dadia, un aliment typique de Minangkabau. La région des terres de l'ouest de Sumatra est connue pour posséder de nombreux patrimoines culinaires uniques. L'un d'entre eux est la zone du Triangle, Agam Tanah Datar Lima Pulau Koto, ou ce qu'on appelle également Lua Nantigo. Cette région est particulièrement connue pour ses mélanges d'épices et ses techniques de transformation des aliments à Minang. L'un de ses héritages traditionnels est le dadia, un lait fermenté traditionnel de la ville de Bukit Tinggi. Dadia vient de la langue Minang signifiant lait épaissi ou le lait fermenté. Dadia est du lait de bouflon fermenté naturellement dans des segments de tiges de bambou. D'habitude, la fermentation qui se produit dure au moins 1 jusqu'à 3 jours. Ce processus de fermentation produit une sorte de crème dense avec une texture douce et un goût aigre distinctif comme celui du yaourt. C'est pourquoi dadia est aussi souvent appelé le yaourt typique du Minang. Plus la période de fermentation est longue, dadia obtenu deviendra plus dense et plus dur. Pendant le processus de fermentation, le lait du bouflon est mis dans un récipient en bambou et ensuite recouvert de feuilles de bananier. Dadia est prête à manger quand il est grumeleur. Même s'ils sont tous deux fabriqués à partir de lait, plusieurs facteurs font que les résultats du processus de fermentation du yaourt et du dadia présentent des caractéristiques différentes. Une différence est le type de lait utilisé. Dadia ne peut être préparé qu'avec du lait de bouflon fraîchement trait. Outre la matière première, une autre chose qui rend dadia unique est le processus de fermentation. Il se déroule spontanément dans un récipient en bambou. Pour fabriquer dadia, le lait de bouflon frais doit d'abord être filtré. Ensuite, immédiatement placé dans des roseaux ou des segments de bambou séchés d'environ 20 jusqu'à 35 mètres de long. Ces segments de bambou sont ensuite recouverts de feuilles de bananier, puis stockés. Le processus de fabrication du dadia est commencé généralement après l'aube, au moment même où les agriculteurs commencent à traire des bouffles. Dadia sera servi dans des tiges de bambou où cet aliment est fermenté. Dans les temps anciens, cet aliment était consommé avec du riz et de la sauce chili à l'oignon. Un tube de bambou dadia est généralement vendu environ 15 000 rupiah. Chers amis, c'était la rubrique Magazine Cultural de la Voix de l'Irmésie diffusée depuis Jakarta. Thank you.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le sommet du réseau mondial du tourisme 2023. Le sommet 2023 du réseau mondial du tourisme se tiendra du 28 septembre 2023 jusqu'au 1er octobre 2023 à Uluwatu Resort Bali. Et le ministre du tourisme et de l'économie créative, Monsieur Sandiaga Salahuddin Uno, soutient la mise en œuvre du sommet 2023 du réseau mondial du tourisme qui devrait accroître l'activité du secteur de réunions, incentives, conventions et expositions au MICE indonésien, notamment à Bali. Il a déclaré que le sommet serait un espace de rencontre internationale permettant aux acteurs du secteur du tourisme de déterminer l'orientation du développement futur du tourisme sur le thème « Le rôle de petites et moyennes entreprises dans le tourisme mondial ». Le ministre Sandiaga Uno a en outre déclaré que le sommet 2023 du réseau mondial du tourisme est une grande activité de MICE qui sera offerte au monde après le succès du sommet de l'ASEAN et du sommet mondial des entrepreneurs islamiques. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative continuera de promouvoir le MICE avec le sommet du réseau mondial du tourisme. Le sommet donnera naissance à un certain nombre de collaborations concrètes entre les acteurs du tourisme national et les acteurs du tourisme international à travers une série d'engagements de coopération. Il est prévu qu'il y aura 200 jusqu'à 250 participants venus de 133 pays du réseau mondial du tourisme tels que les États-Unis, la Jamaïque, le Canada, le Monténégro, Malte et la Turquie pour assister au sommet 2023 du réseau mondial du tourisme. Le sommet du réseau mondial du tourisme qui a été initié par le réseau mondial du tourisme est pleinement soutenu par le ministère du tourisme et de l'économie créative et en collaboration avec diverses organisations telles que le Bureau du tourisme de Bali et BPPD Bali à une série d'agendas notamment commerciaux, expositions, séminaires, forums de discussion, forums de réseautage, forums d'investissement, récompenses jusqu'à la remise d'une déclaration commune et d'un programme post-tournée. L'objectif de la discussion est l'exploration du principal marché mondial entrant et sortant, les sciences médicales, santé et bien-être, l'investissement en Asie et tourisme de résilience et le partenaire international du climat et du tourisme. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicquiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Genta Seruanku, chantée par Bagus Dewantoro. La chanson créée par Edi Wahyono dans ses paroles appelle les auditeurs de cette chanson des ambassadeurs qui sont censés transmettre le message de cette chanson aux autres. L'auteur-compositeur a également inclus un message plus spécifique pour que les artistes soient enthousiastes à faire écho à la grandeur des arts et de la culture indonésienne à travers le monde. La chanson Genta Seruanku invite les auditeurs à se souvenir, à maintenir et à préserver toujours les richesses culturelles diverses et magnifiques de la nation indonésienne. Bon, chers auditeurs, voici Bagus Dewantoro avec la chanson dont le titre est Genta Seruanku. Bonne écoute!
Wahai dutaku, dengarkanlah seruan jiwa. Irama keroncong, wahai insan sedih, cintailah budaya sendiri. Budaya dan seni mendahulu, pewaris budaya seni, penerus seniman dulu, tunjukkan pada suara nang budaya seni, penerus seniman dulu, tunjukkan pada dunia suara.